Une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle?
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là avec moi. Billets d'Afrique et d'ailleurs de ce mois de mars est inspiré de la revue Décolonisons de l'association Survie. Je vous donne aussi les clés pour visionner un documentaire de Yar Ali de l'organisation Culture de Résistance sur la Guinée-Bissau. Bonne écoute et à bientôt. Afrique économique. Le constat est sans appel. La présence économique française, entreprises publiques, semi-publiques et privées dans les économies africaines a fortement diminué depuis les indépendances. Passant d'une part de marché de plus de 60% dans les années 60, elle ne représente aujourd'hui qu'un peu plus de 10%. Faut-il en conclure que la France-Afrique est morte? Certainement pas. Nous en avons déjà parlé. Survie a sorti en début d'année. Que reste-t-il des intérêts économiques de la France en Afrique? Un rapport inédit qui vient contredire les discours dominants sur le déclin de la France en Afrique. Si les chiffres montrent une baisse marquée des importations de matières premières africaines, tout comme des exportations de produits manufacturés français vers l'Afrique, cette évolution ne peut être comprise sans être replacée dans le contexte de la mondialisation néolibérale amorcée dans les années 1980-1990 et de la désindustrialisation. Une recomposition qui ne signifie pas la disparition des multinationales françaises d'Afrique. Plusieurs groupes conservent au contraire des positions dominantes dans des secteurs stratégiques. Total Energy est ainsi présente dans près de 40 pays africains, tandis que Vinci et Bouygues occupent les deux premières places du BTP sur le continent. Et si l'Afrique n'est plus indispensable à l'économie africaine, les entreprises françaises continuent de peser très lourd dans certaines économies africaines, notamment celles des anciennes colonies. Spécificité du néocolonialisme économique tricolore, le poids des filiales des entreprises françaises, plus de 2400 en Afrique subsaharienne, génèrent chaque année plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit près de 4 fois le montant des exportations françaises vers la région. La baisse de la présence économique française en Afrique ne signe donc pas la fin de la France-Afrique, mais sa mutation. Les formes changent, les rapports de domination demeurent. Vous pouvez trouver le rapport complet en allant sur le site survie.org.
Marca, non è un momento difficile, niente. I buoni, a me di l'insegna figlio bonita. Niente ribo marca, non è un momento difficile, niente. I buoni, a me di l'insegna figlio bonita. In a cancera di omi Ivoni Suma bonamu muka timpani Si minderna di falato In a cancera di omi Ivoni Suma bonamu muka timpani Amiglia in crebuccio Sempre in crebuccio Ivoni Sumpano baisani pulau Amidian crebuccio Sempre in crebuccio
Nivoni, Sumpano by San Nicolau.
Prison, un legs colonial. Exporter l'enfermement pour réprimer et discipliner les sociétés colonisées. En juillet 2025, Prison Insider, site d'information sur les prisons dans le monde, publiait L'ombre coloniale, une série d'articles sur l'héritage colonial des systèmes pénitentiaires. Élise Beaumard et Amélie Pascal en ont parlé avec Clémence Bouchard, l'une des autrices de ce travail. Prison Insider, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une plateforme d'information sur les prisons dans le monde créée en 2015 à la suite de la disparition de la dimension internationale de l'Observatoire international des prisons, l'OIP. L'objectif de cette association française est d'informer sur les prisons et notamment de produire des analyses comparatives ou encore des témoignages sur les conditions de détention d'un pays à l'autre. Pourquoi les pays colonisateurs ont importé leurs systèmes carcéraux ? Avant le XVIIIe siècle, dans divers pays, la prison est généralement un lieu pour enfermer des personnes dont on ne sait pas quoi faire, malades, nomades, personnes atteintes de problèmes de santé mentale ou indigentes, et non le résultat d'une sanction pénale. Ce sont les Lumières qui apportent en Europe cette idée de peine et d'une peine égale pour toutes et tous. Avec la colonisation, cette pratique de l'enfermement est exportée dans des endroits qui n'ont pas ou peu cette pratique pour régler les conflits. Ce qui est préexistant, ce sont d'autres systèmes qui cherchent souvent à restaurer plutôt qu'à punir, amende, reconnaissance de l'infraction, processus de réconciliation sociale, etc. Le rôle du juge peut être changeant selon l'infraction, car ce n'est pas une profession en tant que telle. Le discours des puissances coloniales est de moderniser le droit, d'apporter un cadre juridique dans des pays qui sont structurés autrement. On fait passer ça pour un élan de modernité. Les personnes colonisées sont décrites comme des sauvages qui ne connaissent pas le droit, à qui il faut apporter la civilisation. On change tout ce qui existe pour quelque chose considéré comme meilleur et plus avancé. L'enfermement carcéral est emmené dans les colonies, car il sert plusieurs objectifs. D'abord, la répression politique. Le but premier des dispositifs coloniaux est de réprimer les résistances de personnes colonisées, de déstructurer ce qui existait en termes de pouvoir d'autorité, de gestion des conflits et d'installer finalement le désespoir. Parfois, les prisons ont été les premiers bâtiments construits avant tous les autres, par exemple au Kenya. Dans les territoires colonisés, on va contraindre les peuples, réprimer les personnes hostiles à l'obligation de travailler ou qui s'opposent à la colonisation et criminaliser les pratiques de la population dite indigène. C'est notamment le rôle joué par le Code de l'indigénat, instauré en 1887, qui soumet la population à l'impôt et au travail forcé, tout en criminalisant des comportements liés aux coutumes et aux mœurs. Des personnes peuvent ainsi être punies pour ce qu'elles sont en quelque sorte, comme le port ou non-port de certains vêtements. Le processus colonial remplit aussi un rôle capitaliste, mettre les personnes colonisées au travail et leur faire accepter les règles de l'entreprise. C'est la Compagnie des Indes orientales qui a introduit la première prison des Indes en cours de colonisation, souligne ainsi Sarah Bellal de Justice Project Pakistan. Celle-ci est construite avant même que les autorités britanniques ne prennent le contrôle de l'Inde. Parquer les personnes facilite le travail forcé. Les prisons et les bagnes alimentent les chantiers, les plantations et les infrastructures. L'incarcération se double ainsi d'une logique économique dans laquelle les corps emprisonnés sont mis au service du développement colonial. Dans la même logique, celles et ceux qui refusent de payer l'impôt sont criminalisés. Zahir Fidel, chercheur ivoirien, parle ainsi de briser l'hostilité des populations face à l'impôt. Ça vaut aussi pour les Européens, mais eux auront des conditions de détention meilleures que les Ivoiriens. Un autre rôle des colonies est d'expérimenter des lois qui pourront ensuite être ramenés dans les pays colonisateurs. Contrôle du corps, discipline, sévices, punitions, tous ces dispositifs-là sont testés là-bas. La manière de les appliquer dans les sociétés dites modernes par la suite n'est qu'une sophistication de ce qui a d'abord été mis à l'épreuve dans la colonie et qui a fait ses preuves. Comment cette exportation d'un modèle carcéral s'est-elle mise en place ? Les dispositifs législatifs, les codes pénaux, les institutions ont été appliqués aux pays colonisés. Par exemple, on a importé la criminalisation des délits mineurs, comme le vagabondage, la mendicité, la vente à la sauvette, les dettes impayées, ce qui contribue à criminaliser la pauvreté. Dans beaucoup d'anciennes colonies françaises, l'oisiveté va être sanctionnée. Traîner dans les rues, ne pas être occupé à une activité, le vagabondage. Et ces dispositifs sont souvent restés en vigueur après les indépendances. Un rapport sur ce sujet a d'ailleurs été co-signé en juin 2025 par 15 organisations au sein de la FIACAT, la Fédération internationale des ACAT, appelant à dépénaliser des délits mineurs au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Le sociologue Robertson Edouard a démontré qu'en Haïti aussi, les lois sont restées les mêmes après l'indépendance, et ce, alors même qu'elles s'appuyaient sur des critères raciaux et de statut social. Faute de temps dans le moment post-révolutionnaire pour réviser entièrement le code civil, le code pénal et la constitution, on a fait des adaptations sans réformer en profondeur. Selon Robertson Edouard, c'est la raison pour laquelle les mulâtres riches du pays ne se trouvent pas en prison, car ils ou elles ne sont pas justiciables en droit commun haïtien. Ainsi, les personnes principalement visées par le pouvoir colonial continuent de l'être, les pauvres, les nomades, les oisifs. Encore aujourd'hui, ces infractions mineures représentent 25% des affaires traitées par la justice haïtienne. Les jeunes occupant des emplois précaires représentent la grande majorité des personnes condamnées pour ces délits. Par ailleurs, dans de nombreux pays, les établissements pénitentiaires datent de la période coloniale. Et le nombre de personnes incarcérées n'a cessé d'augmenter depuis, menant à d'importants problèmes de surpopulation carcérale. En Côte d'Ivoire, 80% des prisons datent de la période coloniale. Donc aujourd'hui, l'héritage colonial est partout, dans les lois, les bâtiments. Est-ce que cet héritage est aussi dans les pratiques et les rapports de pouvoir ? Eh oui. Si l'on prend par exemple la situation pénitentiaire française, elle est terrible de manière générale, mais encore pire dans les territoires d'outre-mer qui souffrent d'un abandon de l'État et où les établissements pénitentiaires sont confrontés à des difficultés plus importantes que ceux de l'Hexagone, notamment en matière de vétusté et de surpopulation. C'est très lié au système colonial parce que le besoin de punir est beaucoup plus important, constate Samuel Tracol, membre du groupe de recherche colonisation pénale en Amérique latine et aux Caraïbes. En Kanaky-Nouvelle-Calédonie, l'État s'est vu condamné à plusieurs reprises en raison des conditions de détention indignes du centre pénitentiaire de Nouméa, le camp Est. Des personnes détenues y sont placées par exemple dans des containers annexés au bâtiment d'un ancien bagne ouvert en 1864, souligne l'OIP. Le territoire compte 2,5 fois plus de personnes détenues par habitant que l'Hexagone et la très grande majorité sont Kanaks. Il est expliqué dans l'ombre coloniale que les modèles occidentaux de justice punitive continuent aujourd'hui encore à être exportés. Les États-Unis, qui sont très critiqués pour leur modèle carcéral, proposent des formations du personnel pour gérer les situations d'urgence ou les conflits, des architectures types des dispositifs de sécurité, et cela constitue un énorme business. Beaucoup de rapports ont montré que suite à ces formations, des personnels pénitentiaires ont été accusés de bafouer les droits humains. Isolement, cachot, mitard, non-respect de la dignité des personnes, etc. L'exportation de méthodes, les conférences internationales, mais aussi les financements qui sont mis en place par les instances internationales, contribuent à standardiser un modèle répressif bien souvent déconnecté des réalités locales, car répondant d'abord aux exigences des pays qui financent. Un exemple développé par Robertson Edward, les États-Unis ont vendu à Haïti un outil qui sert à ficher les gens, prises de photos, d'empreintes, etc. Ils s'en servent désormais pour refuser des visas d'entrée sur le territoire aux personnes qui sont passées par le système carcéral haïtien. Que ce soit dans les anciens pays colonisés ou au sein des ex-puissances coloniales, est-ce qu'il est possible d'établir un rapport statistique sur les personnes incarcérées et le fait qu'elles soient descendantes de colonisés ou d'esclaves ? Les personnes incarcérées sont en effet majoritairement des descendants de colonisés et ces statistiques sont vraiment valables partout. Aux États-Unis, le taux d'incarcération des Noirs américains dans les prisons d'État était en 2021 près de 5 fois supérieur à celui des Blancs américains. Au Canada, où la moitié des femmes incarcérées sont autochtones, alors qu'elles ne représentent que 5% de la population féminine du pays. En Australie, les personnes aborigènes et insulaires du détroit de Torres représentent 33% des personnes détenues en juin 2023 contre 3,8% de la population générale australienne. En France, nous ne disposons pas de statistiques ethniques, mais de nombreuses analyses montrent que les personnes dites racisées sont là aussi beaucoup plus incarcérées que les autres. Les populations qui ont été ciblées dès le début de la colonisation continue de l'être.
Amin qui n'a pas pu aller, Amin Yanomi, Hadjadjena Boubarne. Amin qui est président de Apalko Voudel en 90. Théao Sinda. Et Pégali, Falangana, Saïlimana, Saïmane Rambé. Obrigado. Pau explicando que Sande Koubaï tira S et Namés. Papia, Boukapou de Papia. Michael Mama, Sande Koubaï tira S et Kouna Bindisi. Nanunde Lina Palkovo keke yesu juda
ngare kusasa kula brangocha nikenta paga pa minini na shkola yino si stadwenji sasa bola kentocha dinero mbele ya balo shuda
mutena wame ukate wame wame muore liki possibilidade de fazer tudo kusa
tudo nessa bola
ma boe boa sta dritto boa.
Unis pour Bissau, Nokumpo, Guinée. Le dernier documentaire de Culture of Resistance Film, Unis pour Bissau, agroécologie et féminisme en Guinée-Bissau, est désormais visible gratuitement sur YouTube. Et cela pour célébrer qu'il a été diffusé dans 100 pays à travers le monde. Il a été réalisé par Yara Lee et monté par Joao Merinos. Unis pour Bissau rend hommage à l'héritage d'Amilcar Cabral, figure visionnaire du mouvement de libération de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Le film met en lumière le courage des femmes de Guinée-Bissau qui perpétuent son œuvre en luttant contre le patriarcat, en promouvant l'agroécologie pour l'autosuffisance et en s'opposant aux mutilations génitales féminines et aux mariages forcés. Je mettrai le lien sur le site de Fréquence 7 à l'émission Billets d'Afrique. Pour voir les sous-titres dans la langue que vous préférez, cliquez sur Paramètres, puis Sous-titres. Sinon, vous avez le film sans sous-titres. Quelques mots de Yara Lee, la réalisatrice. Yara Lee, brésilienne d'origine coréenne, est une activiste, réalisatrice et fondatrice directrice du réseau Culture de la Résistance, une organisation qui promeut la solidarité internationale et met en relation et soutient des militants, des éducateurs, des agriculteurs et des artistes afin de construire un monde plus juste et pacifique par la résistance créative et l'action non violente. En tant que réalisatrice, Yara a réalisé et produit plusieurs longs-métrages, documentaires et des dizaines de courts-métrages au cours des 30 dernières années. Des vœux france-africains. Lors de la traditionnelle conférence des ambassadeurs qui s'est tenue à l'Élysée le 8 janvier, Emmanuel Macron a livré les grandes lignes de sa politique étrangère. 47 minutes de propos bavards et décousus, Dixit Monde Afrique le 12 janvier, au cours desquels le président de la République a ressorti une fois encore son couplet sur un partenariat d'égal à égal avec les anciennes colonies et s'est vanté d'avoir complètement réinventé la relation diplomatique, une manière de taire les échecs de sa politique africaine. Des formules creuses dont il est coutumier, accompagnées tout de même de quelques aveux sur la continuité de la France-Afrique. Côté militaire, par exemple, lorsqu'il a indiqué que la fermeture de nombreuses bases n'avait rien d'un abandon, on a rebâti un partenariat militaire qui est pertinent et qui a montré sa force et sa pertinence au Bénin et qu'on est en train de construire avec plusieurs autres pays. Le partenariat au Bénin prenant en réalité la forme d'une ingérence militaire caractérisée pour sauver un président ami. On en a parlé en janvier. Emmanuel Macron a aussi vanté la solidité de l'amitié avec l'Égypte, une dictature choyée en effet par Paris, comme l'ont prouvé les Egypt Papers, ou encore la remontada formidable de notre diplomatie avec le Maroc, au mépris du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ciblant notamment Donald Trump et les États-Unis, le président a dit sans rire refuser le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme. Les anciens, supportés par la France notamment, semblent en effet mieux lui convenir. Qui a volé à qui ? Suite à une plainte d'Orano, ex-Areva, une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte à Paris fin 2025. La bande organisée désigne les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger à l'été 2023 et le vol, la réquisition d'une tonne d'uranium extraite sur le site d'Arlit, soit quelques mois de production. En effet, après avoir pris le contrôle opérationnel de la Somaïr, la filiale d'Orano dans le pays, puis avoir annoncé sa nationalisation, le gouvernement nigérien tente désormais de vendre un stock d'uranium estimé à 200 millions d'euros. Orano, qui conteste ces mesures, a déjà entamé plusieurs procédures devant le CIRDI, tribunal d'arbitrage privé dépendant de la Banque mondiale, systématiquement favorable aux entreprises contre les États. En septembre, celui-ci a déjà rendu un premier arrêt enjoignant à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l'uranium produit par la Somaïr, retenu en violation des droits d'Orano. Tandis que le chef de la junte militaire, le général Tiani, revendique le droit légitime du Niger à disposer de ses richesses naturelles, de les vendre à qui souhaite les acheter, dans les règles du marché, en toute indépendance. Au plan juridique, Orano aura certainement gain de cause. Mais on s'étouffe lorsque l'entreprise française à capitaux publics s'estime volée, alors que c'est par des ingérences politiques et militaires ininterrompues que la France a conservé un monopole sur l'uranium du Niger pendant des décennies.
Kunza konta ke kminjer sta passa dificuldade ke ta passa o mizibiso katere respito so su ta mingeris Mingeri sta embarca pa bailumu pa va buscar pa pudijo da se figo skien o mi sta bai tarbaju dinheiro que tem, é que está recebendo salário, que está neste de sair, são só o meu dinheiro que está trabalhando. Homens e pessoas abusadas. Guardar, é que está tudo a meu dinheiro.
A nível cultural, nas, as culturas mandjondar são aqueles grupos em que temos tocadoras de tina e pessoas que cantam a tina. Ainda assim, o universo acaba por, não vou dizer machista, mas de uma forma mais masculina.
L'Union européenne verdit la production d'armes. Sur pression de l'Union européenne, des banques financent les entreprises d'armement avec l'argent des fonds verts. C'est la triste réalité que nous dévoile dans une enquête conjointe Vox Europe, Mediapart, IRPI Media et El País en décembre 2025. Via des gestionnaires d'actifs tels DWS, l'allemand, issu de la Deutsche Bank ou Amundi, filiale du groupe Crédit Agricole et leader européen dans ce domaine, les investissements des fonds verts européens dans les activités de défense ont triplé entre 2022 et 2025, frôlant désormais les 50 milliards d'euros. BNP Paribas, Eleva Capital, Crédit Mutuel et BPCE figurent aussi parmi les nombreuses banques commettant de tels investissements. En 2021, un règlement sur la finance durable a été adopté par l'Union européenne pour contribuer à sortir des investissements polluants. L'ASD, le lobby européen des entreprises de défense, est aussitôt monté au créneau et a convaincu la Commission européenne que les fabricants d'armement assurant la sécurité, donc la paix indispensable à l'économie et au bien-être d'une société, apporte de facto une contribution essentielle à un monde plus durable. Note de l'ASD le 6 octobre 2021. Absurdistan, nouveau nom de l'Union européenne ou carrément imposture ? Pas tout à fait, puisqu'elle n'autorise pas l'investissement de fonds verts dans l'industrie qui fabrique des armes controversées, comme les mines antipersonnelles. Ouf ! On respire durablement. Washing. En Afrique, Total pollue aussi le foot. À nouveau, Total Energy aura été le sponsor titre de la récente Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition qui s'est jouée cette année dans un Maroc qui vient de connaître une importante mobilisation de la jeunesse pour la justice sociale. En vertu de son accord de partenariat avec la Confédération africaine de football, la CAF, le nom et le logo de Total Energy se sont affichés partout durant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier dans les retransmissions télévisées dans et hors des stades. La multinationale a même obtenu que la compétition soit officiellement dénommée Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, tout comme le trophée remis à l'équipe victorieuse. Une opération de sport washing, blanchiment par le sport, qui fait partie de l'agressive stratégie de communication du pétrolier, visant notamment à se faire passer pour un acteur majeur de la transition énergétique, ce qui lui a valu une récente condamnation pour pratiques commerciales trompeuses, et c'était dans Décolonisons de décembre 2025. Un marketing indispensable à la poursuite de son pillage écocide du continent. L'Afrique ADN de Total, eh bien voyons. Succédant en 2016 à Orange, autre multinationale française qui participe aussi à la surexploitation de l'Afrique, Total s'est acheté le droit d'être jusqu'en 2028 le sponsor officiel du football africain lors de ses 12 principales compétitions. et de profiter de la ferveur que suscite ce sport parmi les populations africaines et notamment la jeunesse. Ce que reconnaît avec cynisme Patrick Pouyanné, son PDG, sur le site web du groupe, l'Afrique fait partie intégrante de l'ADN de Total Energy. À travers cet engagement, nous renforçons nos liens et notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients autour de compétitions populaires et festives qui suscitent toujours un grand engouement. Une instrumentalisation du sport pour servir ses intérêts capitalistes en affichant fièrement sa position de première major pétrolière en Afrique, mais aussi pour détourner l'attention alors que le continent est en première ligne des effets dévastateurs de la crise climatique dont l'industrie fossile est largement responsable. Total a d'autant plus besoin de redorer son image aux yeux des populations qu'elle est de plus en plus confrontée à des résistances populaires, dernièrement au Mozambique, en Ouganda et en Afrique du Sud, contre les destructions des droits humains et environnementaux que provoquent ses activités gazières et pétrolières. Un sport washing que dénonce également dans son interview à reporter Trust Chikodzo, coordinateur du collectif d'ONG Kick Big Polluters Out, qui mène campagne pour que la CAF mette fin à son contrat avec Total. Utiliser l'un des moments culturels les plus appréciés d'Afrique pour redorer une image bâtie sur l'extraction et la destruction relève d'une contradiction morale profonde. Dans tous ces cas, on observe la même logique, les profits passent avant les communautés, les écosystèmes et le climat. En servant ses intérêts, le géant gazo-pétrolier sert par la même occasion les intérêts du royaume chérifien, ami de la France. La CAN, comme le Mondial de football 2030, que le Maroc accueillera avec l'Espagne et le Portugal, est utilisée par Mohamed VI pour justifier aux yeux d'une population paupérisée les colossales dépenses entreprises, infrastructures, transports, communications, afin de rendre le Maroc encore plus attractif aux investissements étrangers et au tourisme, et au-delà de ses enjeux économiques, pour satisfaire ses ambitions géopolitiques, être reconnu comme une puissance africaine, stable, fiable et dynamique à l'échelle du continent et même du monde. Loin de l'apaisement social espéré par le pouvoir, la démesure des dépenses engagées au nom de la CAN et du Mondial 2030, alors que les systèmes de santé et d'éducation sont délabrés, a été au contraire l'étincelle de la révolte de l'automne d'une partie de la jeunesse. Massivement précarisée, elle n'adhère pas aux ambitions royales et réclame des investissements qui aillent satisfaire les urgences sociales. Des hôpitaux, pas des stades, scandaient les manifestantes et manifestants. Des appels au boycott de la CAN ont même circulé. Une répression particulièrement brutale, accompagnée de vagues promesses, a étouffé la contestation afin que la CAN puisse se tenir. La responsabilité directe de ces événements tragiques incombe évidemment au régime marocain. Mais par le parrainage de la CAN qui l'a maintenue même après cette répression, le pétrolier français s'en rend complice. Total néfaste pour les peuples d'Afrique, décidément une sale habitude.
Ou bien, si vous regardez comme Hitler, Hitler n'est pas une fille. Dans l'intelligence, c'est l'homme qui est plus fort. Même si vous regardez les prophètes, les descendants de Dieu, c'est les hommes qui sont plus dominants quoi, que les femmes. On ne peut pas comparer.
Non.
Ah. Imagine sonhos de homem, tipo mulher de companheiro. Cosse mulher casada, taca um batom em janela. Em vez de tomar canela, entorno pega zela. Juna, toma minha número, não vacina estrela. Homem da mata, mulher da surda. Mundo rabita, sistema, boca, papeta, usa filho. Filho se tacou, mame. Mulher da dentro de corpo, sentido curto.
Le colonialisme français tue. Le soutien de l'État français aux extrémistes Hutus lors du génocide des Tutsis au Rwanda, avant, pendant et après 1994, fut décisif. Israël, en revanche, n'a pas besoin de la France pour commettre un génocide à Gaza, génocide toujours en cours malgré le pseudo-plan de paix américain. Il n'empêche, par son soutien diplomatique, militaire, économique et même idéologique constant à l'État hébreu, la France se rend là complice, une fois de plus, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Un constat dramatique que Survie a tenu à rappeler dans un texte de positionnement rendu public en ce début d'année. L'affirmer ne signifie pas que la France aurait elle-même une intention génocidaire vis-à-vis des Palestiniennes et Palestiniens. En droit pénal, la complicité d'un crime ne présuppose pas son intention. Elle signifie une aide active en connaissance de cause et avec des effets sur sa commission. Or, comment penser que les représentants de l'État français n'avaient pas connaissance des exactions israéliennes relayées quasi en direct et au quotidien sur les écrans du monde entier? Leur caractère génocidaire, lui, a été maintes fois mis en lumière jusqu'en septembre dernier par la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Quant à l'aide active de la France, elle est indiscutable. Refus de quelconque sanction contre Israël, refus d'appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le criminel Netanyahou, alors que celui-ci a survolé au moins deux fois l'espace aérien français, continuation de la coopération sécuritaire et policière entre les deux États, mais aussi la vente d'armes, un flux ininterrompu depuis le début du génocide, dixit une coalition d'organisations dans un rapport publié le 10 juin 2025. Sans oublier la criminalisation incessante du soutien au peuple palestinien en France, incarné notamment par la dissolution du collectif Palestine Vaincra en février 2025 ou celle toujours en cours d'Urgence Palestine. 32 ans après le génocide des Tutsis, ce nouveau soutien tricolore à un régime génocidaire n'a rien d'un accident. Il nous rappelle que la France est elle aussi une puissance coloniale dont l'empire passé s'est construit sur la conviction de la supériorité occidentale sur le reste du monde et la négation de la dignité et des droits des colonisés, y compris du droit de vivre. Une histoire sanglante, encore largement occultée aujourd'hui, comme nous le rappelle un ancien Premier ministre et candidat à la présidence de la République, Édouard Philippe, qui refuse de qualifier la colonisation de crime. Une histoire coloniale surtout qui perdure, que ce soit indirectement, cette France-Afrique qui se réinvente sans cesse, ou très directement dans les colonies d'outre-mer, dont deux d'entre elles, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, sont même inscrites sur la liste des Nations Unies des territoires à décoloniser. Cet impérialisme bien vivant continue ainsi de motiver l'action politique de nombre de nos dirigeants, et Emmanuel Macron en tête. Il nourrit également un racisme structurel persistant qui amène une grande partie de nos compatriotes à accepter, par exemple, que les personnes racisées soient la cible privilégiée des forces de l'ordre, comme El Hassen Diarra, mort dans la nuit du 14 au 15 janvier dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris, ou encore que des peuples racisés entiers soient dépossédés de leurs terres et massacrés. Texte de la rédaction de Survie.
O Amílcar Cabral sempre dizia que durante a luta de libertação nacional precisávamos de uma parte da população. Mas na reconstrução nacional nós todos temos que lutar.
Escravo, mestre, era minha destino. E triste demais, escravatura de um imado. Será que minha caminho não continua sempre seguro? Amiguinhas impuro, me que também ronca ouro. Homem com minha não tem nem mesmo direito. Então, paquila, bodano não respeito. Minha arta passa sacrifício pra cuidar de menino. É na história, medunho, fato vindo do comunho. Que é de nossa saúde, tristeza, mantém firme, ao. Tristeza, mantém firme, ao.
Mas que guiné não me interesse assim. Tristeza que o caçado e putabi. Com menino na costa, com bandeja na cabeça. Pata na chum, com putari na cabeça.
A boi minha era, a mim minha era, budo sempre em dor. A mim minha era, padida, sofri dor, suma boa.